Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, le danger des intelligences. Plein air, le plaisir de type 2. Et sortir de sa coquille. Bonne écoute.
Le danger des intelligences. Un texte de Boukhard Diouf, paru le 1er avril 2023 dans la presse. La réponse à cette question a été publiée dans les journaux cette semaine par un millier de signataires. Qui aurait pensé que l'intelligence naturelle qui brille par son absence de sagesse au sommet de la création aurait un jour à craindre sa propre créature? Le spécialiste en intelligence artificielle, IA, Joshua Bengio, fait partie des personnes qui ont exprimé leur crainte de cette nouvelle intelligence venue des machines. Convaincu que les robots conversationnels peuvent représenter un risque pour l'humanité que nous n'avons pas le temps d'évaluer à cause de la rapidité de leur développement, ces sages appellent à la retenue. C'est la fiction qui dépasse la réalité. Car Hollywood nous a souvent présenté ces scénarios mettant en vedette une créature qui échappe au contrôle du scientifique extravagant et un peu barjot qui l'a mise au monde. Devenue incontrôlable à l'extérieur du labo, la bête finit souvent par s'attaquer à son créateur qu'elle tient pour responsable de son sort. Alors si Bengio et tous les autres ont des raisons valables d'avoir la frousse de l'IA, nous sommes dans un récit en deux temps, ironiquement très semblable à ces films de science-fiction. Une histoire qui commence au moment où la nature a créé ce bipède dont le cerveau, qui représente 2% de la masse du corps, consomme entre 20 et 25% de toute son énergie au repos. Une machine de création et de destruction massive qui ne contient pas loin de 100 milliards de neurones. Chaque neurone peut aussi se connecter à des milliers d'autres, ce qui crédite chaque humain d'autant plus de connexions nerveuses qu'il y a d'étoiles dans la Voie lactée. La force de l'humain. Armé de ce superordinateur cérébral, l'humain a accompli en une fraction de seconde dans l'échelle évolutive ce que la nature a mis des millions d'années à fignoler. Par exemple, en seulement quelques siècles, nous avons appris à voler là où la nature a consacré près de 3 milliards d'années à inventer les ailes des oiseaux. Avec la voiture, nous avons battu la pointe de vitesse du guépard, l'avion nous a permis de donner une leçon de vol au faucon, nos bateaux ont laissé dans leur sillage les poissons volants et, avec les sous-marins, nous côtoyons les baleines dans les profondeurs. Nous avons même trouvé des façons d'aller voir ce qui se passe sur les autres planètes. Rien dans la biosphère ne résiste désormais à la puissance destructrice de l'humain qui s'est arrogé le droit de vie et de mort sur le reste de la création. Grâce à une gigantesque campagne d'autoglorification, il a même réussi à se convaincre que tout ce qui vit sur la Terre a été créé juste pour satisfaire ses moindres désirs et caprices. Autrement dit, que Mère Nature a consacré plus de 3,5 milliards d'années à fignoler la planète et sa biodiversité en attendant l'arrivée de l'élu, le petit dernier qui n'a pas plus de 300 000 ans d'âge. Pas surprenant alors de voir cet enfant gâté scier la branche sur laquelle il est assis sans trouver la force de s'arrêter. Changement de paradigme. Mais il y a du nouveau chez ce bipède devenu son propre prédateur. Il a désormais peur d'un monstre intelligent qui s'est échappé de ses neurones. Comment en est-il arrivé là? Par ce qui ressemble à une boucle de rétroaction négative. Au premier temps de cette histoire, c'est la nature qui a créé l'intelligence naturelle humaine. une fois au sommet de sa clairvoyance, cette intelligence naturelle s'est retournée contre sa créatrice. Au deuxième temps, c'est l'intelligence naturelle humaine qui accouche de l'intelligence artificielle. Voici maintenant qu'à son jeune âge, cette intelligence artificielle commence déjà à donner des sueurs froides à son créateur. Craignant d'être punie par là où elle a péché, l'humanité commence à s'interroger. De quoi avons-nous véritablement peur dans cette histoire? Nous redoutons surtout que la stupidité naturelle du genre humain s'empare de l'intelligence artificielle. Quand l'imminent Joshua Bengio dit craindre que ces esprits non humains nous rendent obsolètes et finissent par nous remplacer, il exprime ce manque de confiance en notre lucidité. Mais, à mon humble avis, ce drapeau rouge arrive un peu trop tard, car l'humain renonce difficilement à ce qu'il considère comme un signe de progrès, qui permet de sauver du temps, de faire de l'argent et d'économiser de l'énergie cérébrale. C'était « Le danger des intelligences », un texte de Boucard Diouf, paru le 1er avril 2023 dans la presse. Plein air. Le plaisir de type 2, un texte de Marie Tison, paru le 1er avril 2023 dans la presse. De nombreux amateurs de plein air connaissent ce sentiment lorsqu'ils randonnent à la pluie battante, lorsque l'ascension d'un pic n'en finit plus de finir ou lorsque le vent empêche le canot d'avancer d'un seul mètre. « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» se demande-t-il. Puis, ils finissent par trouver un abri, ils atteignent le sommet où ils trouvent une baie plus tranquille. Plus tard, en se remémorant l'aventure, ils se disent qu'en fait, ils ont eu bien du plaisir. C'est ce qu'on appelle le plaisir de type 2, un important concept dans le monde du plein air. Selon ce concept, il existe trois types de plaisir en plein air. Le plaisir de type 1, c'est lorsque tout va bien, que c'est agréable, qu'on a du plaisir. Le plaisir de type 2, c'est lorsque c'est ardu et que le plaisir n'apparaît qu'après coup. Le plaisir de type 3, c'est lorsqu'une expérience est indéniablement déplaisante et que même en rétrospective, on n'éprouve aucun plaisir. Évidemment, l'utilisation de l'expression « plaisir » de type 3 est hautement ironique. Jacob Racine est un guide d'aventure, un aventurier et un grand spécialiste des trois types de plaisir. « Je fais principalement du plaisir de type 2, mais avec ma blonde et mon fils, je fais du type 1 », raconte-t-il. « On part en canot camping une semaine, je m'organise pour que le plaisir quotidien reste toujours présent, en planifiant le rythme en conséquence, les arrêts, la bouffe. Je ne veux pas que mon fils s'écœure du plein air. » Ça fait en sorte que chaque fois que je lui propose un projet, il est partant. Il espère commencer à explorer le plaisir de type 2 avec son fils lorsqu'il entrera plus profondément dans l'adolescence. Il s'agira alors de travailler le dépassement de soi, de faire face aux difficultés qui se présentent, de se dépasser et d'éprouver par la suite une grande satisfaction, un grand plaisir. Dans mon cas, ce qui me « drive » le plus dans la vie, c'est le plaisir de type 2, dit-il. Jacob Racine donne l'exemple d'une étape de l'expédition Accor, près de l'île d'Ellesmere, en Arctique, avec Nicolas Roux et Guillaume Moreau. Ce dernier avait une telle inflammation au genou qu'il était impossible de respecter le calendrier de progression et d'atteindre le point de ravitaillement à temps. « On allait manquer de carburant », se rappelle Jacob Racine. Or, s'il n'y a plus de carburant, il n'y a plus d'eau. On meurt. La tentation était grande d'abandonner. Les participants ont toutefois trouvé une façon d'économiser le carburant. Ne pas faire bouillir l'eau une fois la neige fondue et utiliser plutôt des comprimés pour la traiter. Il s'agit de trouver une solution qui va nous amener à dépasser la problématique. ça nous donne un sentiment de réalisation, ça va apporter du plaisir. Il met toutefois en garde contre la tentation de poursuivre une aventure lorsque les conditions sont vraiment dangereuses. Il faut savoir quand arrêter. Sinon, on va tomber dans le plaisir de type 3. On n'a pas de plaisir du tout et on risque de se blesser, dit-il. Jacob Racine a vécu une période de plaisir de type 3 lors d'une traversée du Québec à ski entre Montréal et Coudjouac en 2014 avec Marie-André Fortin, Bruno-Pierre Couture et Sébastien Dugas. Arrivé au lac Mistassini, on avait une décision à prendre, raconte Jacob Racine. Soit on suivait le tracé des gars qui avaient fait l'expédition en 1980, soit on allait voir les monts Otiche, un détour de 170 km qui n'était pas prévu au départ. On s'est demandé si on aurait l'occasion de retourner dans les monts Otiche. Probablement jamais. Tant qu'à être si près. Allons-y. Ça a été l'enfer. On est entré dans le Mordor. Il s'agissait notamment de suivre des rivières encaissées, où la neige était abondante et poudreuse. On n'arrivait pas à avancer. Pendant la première journée, on a fait seulement 3 km en 15 heures, se remémore-t-il. L'effroi était terrible. Malgré cela, les rivières étaient tellement tumultueuses qu'il y avait plusieurs sections d'eau libre. Mes skis ont défoncé, je suis tombé dans la rivière jusqu'aux hanches. Ça a été un enchaînement de mauvaises situations. Arrivé au mont Otiche, Jacob Racine était trop épuisé pour en profiter. Ce sont 15 jours qui n'ont servi à rien. C'était définitivement du plaisir de type 3. Je ne le referai jamais. Juste en parler, je fais de l'urticaire. Pour l'instant, Jacob Racine n'a pas d'expédition de plaisir de type 2 ou 3 en préparation. Il va toutefois guider ce printemps des voyages avec Vélo Québec. Ça, c'est du plaisir de type 1. C'est du bonbon. C'était Plein air, le plaisir de type 2. Un texte de Marie Tison, paru le 1er avril 2023 dans la presse. Sortir de sa coquille et apprivoiser la peur des autres. Un texte d'Olivia Lévy, paru le 2 avril 2023 dans la presse. Sortir de sa coquille. Timidité, trac, phobie sociale. La peur et le jugement des autres sont très répandus dans la population. 2 livres viennent de sortir afin d'outiller ceux et celles qui en souffrent. Louis-Philippe Rivard se décrit comme un timide de classe mondiale. Scripteur humoristique depuis près de 30 ans, il a travaillé avec de nombreux animateurs et humoristes comme Lise Dion, Michel Barrett, Peter MacLeod, Marc Dupré, Véronique Cloutier et Patrice Lécuyer. Avec son livre « La revanche des timides », paru aux éditions Un monde différent, il souhaite aider les autres à sortir de leur coquille. Louis-Philippe Rivard est timide et introverti depuis sa tendre enfance. Il estime avoir un bon bagage de 49 ans d'expérience en gêne, d'où sa légitimité à écrire « La revanche des timides » pour aider les autres à ne pas passer à côté de leur vie pour cause de timidité. Il a toujours eu de la difficulté à imposer sa présence, un héritage de sa mère, qui a inventé la gêne alors que son père n'en connaissait pas la définition, écrit-il. Son plus vieux souvenir de timidité remonte à la maternelle. Il n'était pas à l'aise de jouer avec les autres enfants et pendant les temps libres, alors que les Lego et les Hot Wheels étaient pris d'assaut, il se retrouvait toujours seul à la station poterie avec de la terre glaise. « J'avais pourtant envie de jouer aux Lego ou aux autos, mais je n'osais pas. » Je faisais des cendriers en terre glaise alors que ma mère ne fumait pas. J'ai dû lui faire 20 de cendriers, se rappelle Louis-Philippe Rivard en entrevue. Pour ne pas jouer au ballon chasseur, il se cachait dans la cour d'école. il a évité autant que possible les exposés oraux, les travaux en équipe et toute situation inconfortable. Il a passé son secondaire à la bibliothèque. C'est un endroit parfait pour un timide. On ne parle à personne et il y règne un grand silence. J'ai pu lire tous les livres de psychologie et comprendre ma timidité. D'ailleurs, il y a des avantages parfois à être timide, croit-il. On peut passer des heures à observer, à analyser et à écouter les autres, ce qui est une belle qualité. Il faut aussi être capable d'avoir de l'autodérision, car rire de soi, ça aide. Un obstacle pour réaliser ses rêves. Comme beaucoup de timides, sa gêne est un mélange de peur de ne pas être à la hauteur et de celle d'être jugé par les autres. On a peur de ce que les autres pensent de nous, peur de les décevoir. On pense qu'on n'est pas pertinent, pas assez intelligent, on se met à trop réfléchir et on finit par ne rien dire ou alors il est trop tard et on manque constamment des occasions. Et il insiste sur ce point. Pour moi, la timidité, c'est le seul obstacle qui nous empêche de faire des choses dont on a envie et de réaliser nos rêves, et c'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre. C'est triste de savoir qu'il y a des gens qui ont du talent, mais qui sont trop timides, dit Louis-Philippe Rivard. Grâce à des rencontres déterminantes et à beaucoup d'autodérision, Louis-Philippe Rivard a pu surmonter sa gêne. J'ai eu de la chance, car beaucoup de gens m'ont aidé dans les premières années de ma vie professionnelle. J'étais incapable de parler dans les brainstorming alors que j'avais plein d'idées, se souvient-il. L'auteur Paco Lebel l'a pris sous son aile. Je lui envoyais par écrit des idées et des textes. Il a vu que ça valait la peine, alors il m'a aidé petit à petit à prendre confiance en moi. C'est l'humoriste Peter McLeod, avec qui il a travaillé à la radio, qui lui a présenté sa conjointe, Josée Boudreau. Une rencontre déterminante dans sa vie. Je n'osais pas la regarder au début. Elle parlait fort, riait fort, j'étais très intimidé. C'est elle qui m'a embrassé en premier. Je n'aurais jamais osé. Si elle ne l'avait pas fait, je pense que je serais encore en train de me demander si j'ose l'embrasser ou pas, dit-il en riant. Il a beaucoup appris de Josée Boudreau, avec qui il fait des conférences. C'est une vraie extravertie. Elle a envie de danser, elle danse, elle chante en premier au karaoké, elle parle avec tout le monde. Grâce à elle, j'aime être avec les gens, j'apprécie les soupers entourés d'amis, même avec de nouvelles personnes. Josée, c'est une vraie inspiration encore aujourd'hui, malgré son accident vasculaire cérébral qui l'a laissé aphasique. Même si elle a du mal à parler, elle continue et elle fait rire les gens. Bien qu'il ait fait beaucoup de progrès, Louis-Philippe Rivard se considère toujours comme timide. Dans un mariage, quand un extraverti pense me sauver en me traînant sur le plancher de danse, avant je le suivais, maintenant je suis capable de dire non, je n'ai pas envie, je suis très bien dans mon coin, dit-il. Je sais que nous ne sommes pas seuls, nous les timides. Il faut, petit à petit, faire l'effort d'aller vers les autres, se secouer et exprimer ses envies, car sinon, on passe à côté de sa vie. Vous écoutez « Sortir de sa coquille et apprivoiser la peur des autres », un texte d'Olivia Lévy paru le 2 avril 2023 dans la presse. Apprivoiser la peur des autres. La peur des autres est certainement la peur la plus répandue. Trac, timidité, phobie sociale, rougissement, on a tous vécu une de ces peurs à un moment de notre vie. Dans la Nouvelle peur des autres, publiée aux éditions Odile Jacob, les auteurs et psychiatres français Christophe André, Patrick Légeron et Antoine Pellissolo nous font comprendre les mécanismes des peurs sociales et les moyens de les surmonter. Entrevue avec Antoine Pellissolo, psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil, en France. Qu'est-ce que la timidité et quelle est la différence avec l'anxiété sociale? La grande différence entre la timidité et l'anxiété sociale, c'est que la timidité n'est pas pathologique en soi. C'est un trait de caractère, un comportement qui est d'ailleurs très répandu puisqu'il y a près de la moitié de la population qui se considère comme timide ou qui a été timide à un moment donné. Un timide va s'inquiéter avant une nouvelle rencontre ou avant de parler en public, mais ce sera provisoire. L'anxiété sociale, c'est la peur du jugement négatif envers soi. On a tendance à se dévaloriser, alors on a une aggravation de la peur chaque fois, ce qui nous empêche d'agir. Une anxiété sociale peut être plus ou moins handicapante et crée une souffrance. On craint constamment de donner une mauvaise image de soi. On pense que les autres ne remarquent que nos défauts, alors on imagine les pires scénarios, on se questionne, on exagère et on est paralysé par l'angoisse. On estime que c'est autour de 5 à 7% de la population qui souffre d'une anxiété sociale pathologique qui correspond à des critères de gravité et de handicap. À quel âge l'anxiété se détecte-t-elle? On voit des enfants vers 5 ou 6 ans qui sont déjà plus que timides. On observe qu'il y a une gêne qui les paralyse au quotidien. Ils vont renoncer à voir des amis, à aller à des anniversaires. Ça peut aussi se manifester à l'adolescence. Ça ne veut pas dire que tous les enfants auront, pendant leur vie, un problème d'anxiété. Dans certains cas, ça va s'atténuer, voire disparaître, mais dans d'autres cas, ça peut durer des années ou des décennies. Il faut pouvoir repérer l'anxiété à un jeune âge et les parents peuvent faciliter les choses en encourageant leurs enfants, doucement sans trop les brusquer, à aller vers les autres. Si les parents sont eux-mêmes dans le repli social, n'ont pas beaucoup d'amis, ne sortent pas ou ont tendance à déconsidérer leurs enfants, ça peut être plus grave. Ces anxiétés sociales sont-elles plus fréquentes? Elles sont plus gênantes. Il y a toujours eu une partie de la population qui avait une gêne vis-à-vis de la communication. Mais aujourd'hui, avec les technologies, on a démultiplié les moyens de communication. On a beaucoup plus d'échanges et les gens qui ne sont pas très à l'aise en souffrent plus, au quotidien. Et en même temps, avec les nouvelles technologies, on a réduit les échanges en personne. Ça crée un écran. C'est le cas de le dire, avec l'autre. Ce qui semble protecteur, on l'a vu pendant la pandémie, car beaucoup de gens avaient moins de contacts réels et étaient cachés derrière leurs écrans et leurs masques. Ces rapports artificiels et distanciels, ça protège sur le moment, mais ça n'aide pas à se sentir plus à l'aise. On est plus vulnérable, car on a perdu l'habitude du contact et il faut réapprendre à vivre dans le réel, ce qui est difficile, mais nécessaire. Il y a des gens pour qui il est très pratique de créer de nouveaux liens par le biais de l'Internet, mais il faut aller au-delà. Lorsqu'on souffre d'anxiété sociale, quel est l'impact sur la vie quotidienne? Ça commence souvent tôt dans la vie. Il peut y avoir des conséquences sur les études, l'école, l'université, la peur de passer des examens, de devoir être en groupe, de parler en public. Beaucoup de gens anxieux se restreignent dans leur vie. Ça peut être un frein à l'épanouissement personnel et professionnel. Il y a des gens qui renoncent à une promotion car ils savent qu'ils vont devoir diriger une équipe, parler en public ainsi que dans les réunions. On le voit dans les statistiques que les anxieux sociaux n'ont pas le même niveau d'études ou le même profil socio-économique et professionnel qu'ils pourraient souhaiter à cause de ce frein parfois difficile à surmonter. Est-ce qu'on en parle plus ouvertement de l'anxiété sociale? Oui, mais pas beaucoup par rapport à l'ampleur de l'anxiété sociale dans notre société. C'est bien que certains en parlent. Il y a eu récemment Naomi Osaka et Simon Biles, mais c'est encore tabou. Un des motifs principaux des anxieux sociaux, c'est le fait qu'on sache qu'ils en souffrent, car c'est vécu comme un tabou. Dans notre société, il y a un besoin de performance et d'image de perfection qui est omniprésent. Le culte de l'image avec les réseaux sociaux, c'est difficile pour ceux qui souffrent d'anxiété et de phobie sociale. On doit pouvoir montrer qu'on a des moments de fragilité et de sensibilité. On doit être plus ouvert, être moins dans le jugement, car on a tendance parfois à se moquer des gens qui rougissent. Il suffit d'une remarque une fois et on peut être marqué à vie ou presque par une scène vécue de rougissement. C'est très banal de rougir, mais dès qu'on refuse de rougir, car c'est perçu comme un signe de faiblesse, ça peut devenir une obsession pour certaines personnes. On appelle l'érutophobie, la peur de rougir en public, qui peut être une source de handicap. Comment traite-t-on l'anxiété sociale? Par l'action. On essaie petit à petit de supprimer tous les évitements qu'on peut faire au quotidien. Le problème, c'est qu'on n'en a pas toujours conscience. Ça peut être la peur de poser une question, de regarder les gens dans les yeux, d'exprimer une opinion. L'exposition au regard des autres permet de faire baisser la peur. Petit à petit, on va gagner la confiance en soi. On va perdre nos réflexes d'appréhension, ce qui permettra d'améliorer sa qualité de vie. On va rencontrer plus de personnes, on va se faire des amis, sortir davantage, être plus à l'aise socialement. Le but n'est pas de devenir extraverti, mais de gagner en liberté de choix et d'action. Pour ça, il faut sortir de sa zone de confort par étapes, doucement, mais dans la durée. Le plus efficace, c'est la psychothérapie. Il faut s'exposer au regard des autres, dans la bienveillance, et apprendre à changer l'image qu'on a de soi-même. C'était « Sortir de sa coquille et apprivoiser la peur des autres », un texte d'Olivia Lévy, paru le 2 avril 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.